Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo. Très heureux de vous retrouver toutes et tous après 2 mois d'interruption de ce magazine hebdomadaire. Cet été, Micro Rebelle a rediffusé plusieurs de ses émissions. Et parallèlement à cela, nous avons réalisé, avec nos salariés et nos bénévoles, beaucoup d'ateliers radiophoniques concernant des enfants en centre de loisirs, des jeunes en CAJ, des adultes des CCAS, par exemple à Loison-sous-Lens et à Annay, des ateliers EMI, éducation aux médias et à l'information, notamment en médiathèque. Vous pourrez retrouver toutes ces initiatives sur notre site micro-rebelle.fr, initiatives qui donc ont interrompu ce micro-rebelle hebdo, ce qui explique que je suis d'autant plus satisfait de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons reprendre donc nos émissions régulières, c'est donc chaque vendredi de 18h à 19h, c'est en direct sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, comme toujours, nos amis de Radio PFM 99.9 et en DAB+, Radio PFM dans la Rajoie, nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi à 7h30, le dimanche à 14h. Nous les remercions chaleureusement. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine l'agenda des luttes sociales, l'agenda culturel. C'est une rubrique actualité et revue de presse, ainsi que des échanges, des reportages et de la musique libre. Sans attendre, je vous propose tout de suite notre rubrique agenda. On va démarrer par ce week-end, le samedi 5 septembre, et cet appel à manifester devant le centre de rétention administratif de l'Île-Léquin. Donc dans plusieurs camps de rétention, au Mesnil-Amelot, à Rennes, à Nîmes, à Marseille-le-Canet, à Vincennes et à l'Île-Léquin, des retenus sont en grève de la faim. La machine à expulser, avec interdiction de retour sur le territoire, bat son plein. Il y a donc une manifestation devant le centre de rétention administratif, le CRA, le CRA de l'Île-Léquin, ce samedi 5 septembre à 14h. Mercredi 9 septembre, projection du documentaire Nation sur la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Dans la perspective du second référendum sur l'autodétermination de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, référendum prévu le 4 octobre prochain, l'atelier d'histoire critique est heureux de vous inviter à sa projection débat de rentrée qui aura lieu le mercredi 9 septembre prochain à partir de 19h30 au cinéma L'Univers, au 16 rue Georges Danton à Lille. Micro Rebelle a déjà eu l'occasion d'échanger avec l'atelier d'histoire critique, notamment à propos des événements liés à Fédère. Et donc ce film qui nous est proposé par l'atelier d'histoire critique s'intéresse aux collectifs autochtones, coutumiers, traditionnels kanak, souvent marginalisés dans les médias locaux et internationaux. La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur Florent Tillon et de militants kanak pour l'indépendance, militants dont M. François Carré, ancien représentant du FLNKS en métropole. C'est donc mercredi 9 septembre à 19h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Le lendemain, jeudi 10 septembre, permanence ACAD. ACAD, c'est l'association anti-compteurs communicants. Cette permanence, qui concernera donc les compteurs notamment Linky et la 5G, se déroule à Angres, salle Capé, rue de la Maladrerie, à 18h. N'hésitez pas à vous y rendre. Jeudi 10 septembre, donc le même jour, pollution de l'air, notre santé en jeu. C'est une conférence dans le cadre du cycle Regard d'experts du centre de doc de la Mresse. Une conférence avec Suzanne Crumerol, maître de conférence en physique à l'Université de Lille, et Pascal Coquerel, médecin et référent santé à l'association Droit au vélo. Donc l'inscription est obligatoire, hein, à l'adresse courriel inscription@mresse-asso.org ou par téléphone au 03 20 52 12 02. La DAV nous signale que la métropole européenne de Lille est particulièrement touchée par l'augmentation des épisodes de pollution ces dernières années. C'est un véritable enjeu de santé publique. Cette situation provoquerait entre 1700 et 2400 décès par an. Donc la conférence a pour but de dresser un état des lieux de la pollution dans la métropole lilloise. Donc ça concerne bien évidemment également le bassin minier et de donner les principaux repères pour comprendre l'évolution de la situation depuis 10 ans. Les intervenants reviendront sur ces multiples causes, ses conséquences sur la santé et les leviers individuels et collectifs pour respirer un air plus sain. Je rappelle donc, pollution de l'air, notre santé en jeu, conférence, jeudi 10 septembre à 18h30 à la Mresse, la maison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille FIV. Pour terminer cet agenda social et culturel, une annonce qui concerne nos amis de Culture Commune, pas très loin de chez nous, hein, c'est tout à fait dans le quartier dans lequel Micro-Rebelle est implanté, et c'est le week-end prochain, vendredi 11 septembre et samedi 12 septembre. C'est une initiative intitulée Nos Retrouvailles, c'est en quelque sorte le retour des initiatives de Culture Commune après de longs mois d'interruption. Alors ça se passe sous la forme de différents parcours, hein, en compagnie d'artistes qui nous proposent différents spectacles. Hein. Donc le vendredi 11 septembre, il y a trois spectacles, hein, trois parcours plutôt, un à 18h, un à 18h30 et un à 20h. Il est possible notamment d'enchaîner les parcours 1 et 2. Le parcours 1, c'est du cirque, le parcours 2, du cirque et du théâtre, et le parcours 3, du théâtre. Le lendemain, le samedi 12 septembre, c'est à partir de 15h, un parcours à 15h, musique et cirque, à 15h30, théâtre, à 16h30, théâtre et cirque, de 17h15 à 19h45, musique et cirque, à 18h15, théâtre, à 18h30, musique, cirque et théâtre, et on peut effectivement également enchaîner plusieurs parcours. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Culture Commune pour compléter ce type d'informations, dont notamment la réservation qui est indispensable au 03 21 14 25 55, 03 21 14 25 55 à Culture Commune. On va poursuivre ce micro-rebelle hebdo par notre rubrique actualité. Alors l'actualité ces derniers mois, elle a été effectivement très riche. Et on a souhaité, à l'occasion de ce premier micro-rebelle hebdo de rentrée, hein, avec la coupure de l'été, ça fait plusieurs semaines qui se sont écoulées sans que nous évoquions l'actualité. Alors il n'est donc pas inutile de jeter un rapide coup d'œil sur les événements de ces dernières semaines, notamment les semaines d'été qui viennent de s'écouler. D'autant que l'actualité, cet été, a été riche. Il ne nous est pas possible d'évoquer l'ensemble de ce qui nous a marqué, et c'est bien dommage. Alors on vous propose néanmoins un petit survol de cette actualité estivale, en commençant tout d'abord par l'actualité internationale. Au Mali, durant tout l'été, la révolte est montée, avec de grandes manifestations, le 5 juin, le 19 juin, le 10 juillet. Le point de départ de ces manifestations, ce sont les fraudes lors des élections législatives d'avril dernier, mais aussi plus largement l'aggravation de l'austérité et des conditions d'existence qui se sont durcies avec le couvre-feu. Ces manifestations se tenaient notamment à l'appel d'une coalition de partis et d'associations emmenée par l'imam Diko, un imam qui s'est par ailleurs mobilisé contre les droits des femmes et contre l'éducation sexuelle dans l'enseignement. Tout cela s'est soldé par le coup d'état militaire du 18 août et la démission du président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, tellement contesté que personne ne s'est opposé à ce coup d'État. L'armée française, présente sur place, a laissé également faire ce coup d'État. La France a toujours soutenu le régime en place, mais il était devenu de plus en plus impopulaire. Par ailleurs, une partie de plus en plus importante de la population ne se fait pas d'illusions sur le rôle de la France dans la situation catastrophique que connaît le Mali. Un autre régime très contesté lui aussi, c'est en Biélorussie. La contestation ne faiblit pas suite à la mascarade de l'élection présidentielle du 9 août, à l'occasion de laquelle le dictateur Loukachenko aurait recueilli 80% des suffrages, alors que son principal opposant était emprisonné et donc empêché de se présenter. C'est d'ailleurs l'épouse de cet opposant qui s'est présentée à sa place et à laquelle les sondages sortis des unes accordaient la victoire avec 72% des voix. Suite à cela, des manifestations se sont poursuivies jour et nuit dans de nombreuses villes de Biélorussie, manifestations réprimées et entraînant l'arrestation de milliers de personnes, tandis que plusieurs usines se mettaient en grève. Les dirigeants occidentaux, notamment français, se sont empressés de protester contre les fraudes électorales. On peut quand même relever que ces dirigeants ont su profiter de la dictature de Loukachenko, notamment pour contourner leurs propres sanctions contre la Russie et continuer à faire leurs petites affaires. Business is business. Alors on poursuit ce petit tour de l'actualité estivale dans le monde avec une escale au Liban. L'explosion meurtrière de Beyrouth, le 6 août, a dévasté le port de la ville, tué plus de 180 personnes et blessé des milliers d'autres. Emmanuel Macron est allé jouer les vedettes à Beyrouth quelques heures après l'accident, et un mois plus tard, il n'est pas inutile à ce sujet de rappeler que c'est la France, il y a un siècle, qui a créé de toutes pièces le Liban et mis en place un système confessionnel en appui sur la minorité chrétienne pour maintenir son hégémonie. Depuis, tous les gouvernements français, ceux de Mitterrand, de Chirac et maintenant de Macron, ont entretenu des liens privilégiés avec les familles de la bourgeoisie libanaise qui se partagent le pays. Signalons enfin que les manifestations populaires qui ont suivi la terrible explosion de Beyrouth ont été réprimées à coups de grenades lacrymogènes fournies par la France, qui fournit également des lance-grenades et des blindés légers. On reste au Moyen-Orient avec cet accord annoncé mi-août par Donald Trump, un accord entre les Émirats arabes unis et Israël visant à normaliser leurs relations avec en pratique l'ouverture de représentations diplomatiques entre ces deux pays. L'autorité palestinienne comme le Hamas ont qualifié cet accord de trahison de leur cause avec des slogans comme « La Palestine n'est pas à vendre » dans les manifestations à Gaza. À ce sujet, La Voix du Nord nous a proposé une interview de Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, dans lequel il déclare notamment « Prétendre régler la question palestinienne sans les Palestiniens, c'est quand même un peu fort de café ». L'actualité internationale, c'est aussi, et malheureusement, la marée noire qui frappe les habitantes et habitants de l'île Maurice, une marée noire symptomatique de ce qu'est l'économie mondiale aujourd'hui. Port-Louis est la capitale de l'île Maurice et c'est aussi un grand port industriel emprunté par des cargos reliant les ports d'Asie à l'Afrique du Sud, au Brésil et y compris à l'Europe. Des centaines de milliers de conteneurs y transitent chaque année. Les cargos s'y approvisionnent en carburant, passant aux abords de la barrière de corail, là où s'est échoué le Wakashio, le navire en question. Aujourd'hui, la population de l'île ramasse le sable souillé de pétrole à la main, avec les risques sanitaires inhérents, et fabrique des barrages avec du chanvre, des résidus végétaux, voire des cheveux. Enfin, encore et malheureusement, l'actualité internationale, c'est la politique américaine qui s'enfonce dans les violences policières. Le 23 août, des policiers blancs de la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, tirent 7 balles à bout portant dans le dos de Jacob Blake, un noir américain. Après s'être interposé dans une dispute, il cherchait à se réfugier dans sa voiture. 3 de ses enfants, présents dans le véhicule, ont assisté à la scène. Après avoir été entre la vie et la mort, Jacob Blake restera paralysé. Tout cela a ravivé la colère antiraciste aux USA, trois mois après l'assassinat de George Floyd par un policier de Minneapolis. De nouvelles manifestations se sont organisées, ainsi qu'une campagne de boycott du monde sportif. On peut noter que la ville de Kenosha, ainsi que l'État du Wisconsin, sont dirigés par des démocrates, et que donc les républicains n'ont pas le monopole des violences policières et du racisme. C'est que la société américaine, dans son ensemble, repose sur les inégalités, sur l'oppression des plus pauvres, dont les Noirs font partie. De plus, le racisme est inhérent au capitalisme américain, qui s'est construit sur l'esclavage, puis sur la ségrégation et les lynchages. Rien d'étonnant donc à ces violences policières récurrentes contre les Noirs aux USA. On va maintenant s'intéresser à l'actualité en France, une actualité dominée par la casse sociale qui s'annonce. Au deuxième trimestre, 179 000 postes de travail ont été supprimés et 600 000 emplois ont été supprimés depuis le début de l'année. L'INSEE anticipe la destruction de 900 000 postes sur l'ensemble de l'année via des licenciements, des fins de contrat d'intérim, des fins de CDD ou des ruptures conventionnelles. Bref, les travailleuses et travailleurs sont la principale variable d'ajustement des employeurs. En parallèle, des besoins essentiels dans la santé, les hôpitaux, les EHPAD, dans l'éducation et dans de nombreux autres secteurs, des besoins essentiels donc ne sont pas assurés, faute de personnel. Notre système économique marche sur la tête et dans tous les cas n'est pas en capacité de répondre aux besoins des hommes et des femmes. Que faut-il faire ? Quelques chiffres pour nous donner des idées. Depuis le début 2020, Jeff Bezos, PDG d'Amazon, a augmenté sa fortune de 63 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, de Facebook, a augmenté sa fortune de 9 milliards de dollars. Elon Musk, de Tesla, a augmenté sa fortune de 41 milliards de dollars. En France, toujours depuis le début de l'année, Bernard Arnault a augmenté sa fortune de 12 milliards d'euros et fait la course avec Jeff Bezos pour devenir l'homme le plus riche du monde. D'un côté, des centaines de milliers de postes détruits en France, des centaines de milliers de personnes dans la précarité. De l'autre côté, des milliardaires dirigeants d'entreprises, des actionnaires dont la fortune s'envole. Cette casse sociale en France, notre région n'y échappe évidemment pas. Un premier exemple avec Camaïeu. Depuis 2008, les bénéfices de Camaïeu servent à rembourser les dettes auprès de fonds d'investissement. Une situation intenable, d'autant que les syndicats estiment que la direction voulait le redressement judiciaire pour la récupérer à moindre coût. Au final, c'est la FIB, la FIB, la financière immobilière bordelaise, qui ramasse la mise. La Voix du Nord titre à ce sujet « Camaïeu change de main et limite la casse ». On aimerait y croire, mais la réalité est sans doute plus nuancée. La FIB, dans son plan de reprise, fermera 120 magasins sur 630 et licencie 460 personnes sur 3100. Dans un autre article, La Voix du Nord interviewe le nouveau dirigeant de Camaïeu, placé par la financière immobilière bordelaise. Celui-ci déclare « Je me suis donné 2 ans pour redresser Camaïeu ». Redresser Camaïeu ? On peut craindre, une fois de plus, que cela ne se fasse au détriment des travailleuses et travailleurs, de leurs conditions de travail, de leur salaire. Un deuxième exemple, très près de chez nous également, c'est Alinéa. Les magasins Alinéa font partie du groupe Mullier, propriétaire de Auchan. Le groupe Mullier souhaite fermer plusieurs de ses magasins Alinéa en France. Par exemple, à Alinéa Noyelle-Godault, ce sont 51 salariés qui seraient licenciés et qui se mobilisent actuellement contre leur direction. Le groupe Mullier leur propose une indemnité de 1500 euros, ce qui déclenche cette réaction, je cite, « des indemnités dignes d'une petite PME » alors que le groupe pèse 26 milliards d'euros et que la famille Mullier est la 6e fortune de France. Parmi les offres de reprise, il y a une offre du groupe Mullier. Autrement dit, Mullier met en liquidation judiciaire Alinéa et se propose ensuite de reprendre Alinéa au prix quand même de 1000 suppressions de postes. Comment est-ce possible ? Comment un propriétaire peut-il mettre en liquidation son entreprise et ensuite la reprendre ? Eh bien, c'est tout à fait légal. Depuis une loi de mai 2020, votée en pleine période Covid, une loi qui permet de déclarer la cessation de paiement en prétextant des difficultés financières, puis comme si de rien n'était, faire une offre de reprise, même partielle. On a là une belle illustration, à la fois du cynisme des capitalistes et également des opportunités offertes par la crise du coronavirus pour permettre aux patrons d'en profiter et restructurer leurs petites affaires, se renforcer et prospérer de nouveau. À ce jour, les grévistes d'Alinéa jugent cette tambouille inacceptable. Une autre mobilisation, justement, qui a pris de l'ampleur durant cet été, ça se passe à la mairie de Saint-Paul-sur-Ternoise. Le nouveau maire, nouvellement élu, met à la porte la responsable de cabinet de l'ancien maire et ne s'embarrasse pas des formalités obligatoires qui permettraient qu'elle touche les indemnités. La pilule ne passe pas, avec une grosse mobilisation syndicale au sein des collectivités du Ternois. Nous en reparlerons à Micro-Rebelle. Difficile de faire un tour, même rapide, de l'actualité estivale sans évoquer la situation des migrants dans le Pas-de-Calais, et notamment le Calaisis, où les camps de migrants sont systématiquement démantelés avant évidemment d'être réinstallés. Qui peut imaginer que des personnes migrantes que l'on chasse d'un camp de fortune ne vont pas chercher à retrouver un abri? Alors évidemment, localement, il peut y avoir des tensions. La Voix du Nord titre par exemple « Des Calaisiens excédés par la présence de migrants à côté de chez eux ». Parallèlement cet été, l'État accorde des moyens supplémentaires en force de l'ordre, comme si cela pouvait régler la question migratoire. Et puis la réalité calaisienne, c'est aussi ce titre dans la Voix du Nord, fin août, un migrant soudanais se noie en tentant de traverser la Manche. La politique répressive des États français et britanniques ne résout rien. Elle s'inscrit dans une guerre aux pauvres, une guerre commencée dans leur pays d'origine. Une actualité nettement plus réjouissante maintenant, avec ce titre cette semaine dans la Voix du Nord, à Lens, une maison de l'économie sociale et solidaire au centre-ville en 2021. L'article précise « Plusieurs structures de l'arrondissement de Lens-Hénin s'unissent pour créer une maison de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Elle proposera hébergement de structures, aide au montage de projets, bars, restauration et magasins partagés. » Fin de citation. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons tendu notre micro à Laurence Zaderatsky, une des initiatrices de ce projet, elle-même par ailleurs investie au sein de l'association d'éducation populaire, culture et liberté. Je vous propose de l'écouter.
Le toit commun, c'est l'idée de rendre visible l'économie sociale et solidaire sur le territoire, CALCAC. C'est donc promouvoir une économie sociale et solidaire à forte valeur ajoutée avec des valeurs. C'est montrer que les acteurs du territoire sont là, sont dynamiques et ont peut-être envie d'autre chose en termes d'économie. Et puis, c'est inventer, développer, promouvoir de nouvelles formes de développement économique au service de l'humain. Voilà un petit peu pour le toit commun. Fusée à plusieurs étages, il y a d'abord une association, des personnes. Ensuite, il y a l'achat d'une SCI pour acheter un lieu, puisque pour donner de la visibilité, avoir un lieu, c'était un vrai enjeu. Donc l'achat du lieu. Et puis l'autre étage, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui sera là pour animer, faire fonctionner ce lieu qui sera un lieu de vie de l'économie sociale et solidaire, et qui sera lieu de pratique, d'innovation et de développement. Et puis, il y aura donc des communautés à l'intérieur de cette maison. Donc, des structures qui basent une partie de leur activité, des espaces de travail occasionnels ou ponctuels, bureaux, box, coworking, salle de réunion, un bar, une restauration, et puis un magasin partagé. Et aussi l'idée d'une université populaire de l'économie sociale et solidaire. Voilà un petit peu pour ce projet qui a démarré il y a maintenant 2 ans et qui là aujourd'hui est dans sa première phase au niveau des travaux et puis la mise en place. Donc chantier collaboratif la semaine dernière. Et puis vraiment, ça sera la propriété de chacun, alors avec des valeurs. Donc il y a une charte d'éthique qui existe. pour se retrouver avec des marqueurs, l'utilité sociale, l'organisation collective, la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée. On s'engage quand on viendra dans ce lieu dans un processus avec l'idée d'impact sur le territoire de l'économie sociale et solidaire et de sa diffusion auprès de nouveaux acteurs et de gens qui auraient envie de s'investir sur cette idée.
Alors je termine cette rubrique Actualité Revue de Presse par quelques anniversaires cet été. Le premier de ces anniversaires, le 6 août, je vous lis intégralement et sans commentaire une brève de La Voix du Nord. 75 ans. Le 6 août 1945, un bombardier américain B-29 larguait la première bombe atomique de l'histoire sur Hiroshima, dans l'ouest du Japon. Trois jours plus tard, le même cauchemar se répétait à Nagasaki, sud-ouest. Ces deux bombes nucléaires, les seules à ce jour à avoir été utilisées en temps de guerre, ont causé la mort de 140 000 personnes à Hiroshima et 74 000 à Nagasaki. On estime à 7 000 degrés la température atteinte à l'épicentre de la bombe à Hiroshima, provoquant des brûlures graves et pour beaucoup mortelles dans un rayon d'environ 3 km. Les deux autres anniversaires concernent la vie des femmes et le mouvement féministe. Une première date tout d'abord. Il y a 100 ans, le 31 juillet 1920, la Chambre des députés vote à 521 voix contre 51 une loi contre la contraception. Deux ans après la fin de la guerre, il s'agissait de pallier au manque d'hommes jeunes en état de travailler. La loi interdisant alors toute propagande anticonceptionnelle, y compris par l'avortement. Et le deuxième anniversaire, c'est le 26 août 1970, il y a donc 50 ans. Ce jour-là, 9 femmes tentaient de déposer, sous l'Arc de Triomphe, une gerbe pour la femme du soldat inconnu avant d'être arrêtée. Cette date marque la création du mouvement de libération des femmes, le MLF. Stays standing.
web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, nous sommes toujours sur micro-rebelle dans notre émission hebdomadaire micro-rebelle hebdo, émission rediffusée par nos amis de Radio PFM 99.9 dans la Rajoie et en DAB+. Un premier reportage maintenant, après une deuxième journée de grève au McDonald's de Fouquier-les-Béthunes, les négociations entre les salariés et la direction sont toujours au point mort. Micro-Rebelle a rencontré Erika et Anthony pour parler de leurs revendications, des conditions de travail, de la réalité économique d'une franchise du fast-food américain. C'est un reportage de Luc.
Jeannouex Erika, délégué syndical chez Framado de Fouquier-les-Béthunes.
Rigué Anthony, employé dans la même entreprise.
Samedi 8 et mardi 18 août, les salariés du McDonald's de Fouquier-les-Béthunes se sont mis en grève. Après l'échec des négociations annuelles et au vu de l'absence de dialogue avec la direction, les employés du fast-food n'ont eu d'autre solution pour faire entendre leurs revendications que de cesser le travail. Nous avons rencontré Erika et Anthony dans un café lensois. Alors hier, mardi 18, vous avez fait une deuxième journée de grève au McDonald's de Fouquier-les-Béthunes. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer les raisons de la grève ?
Alors, les raisons de la grève sont que nous sommes entrés en négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise en janvier de cette année, qui ont été forcément suspendues à cause de la crise du Covid. En juillet, nous avons repris les réunions. Notre PDG nous a fait des propositions inacceptables, en fait, pour l'équipe. Donc, nous avons débuté un mouvement de grève le 8 août. Suite à cela, aucune nouvelle de notre PDG qui est en vacances. Nous avons reçu un PV de désaccord donc le lundi 17, qui, s'il est signé, mettra fin aux négociations en entreprise. C'est ce que nous ne voulons pas, en fait. D'où le mouvement du 18, la reprise de la grève.
Est-ce qu'on peut commencer par essayer de décrire les conditions de travail dans un McDonald's ?
On va dire que avant, quand même, les négociations, les conditions de travail étaient plutôt respectables. Depuis les négociations, elles ont commencé à être, je vais employer le mot, assez chaotiques. Surtout depuis la reprise avec le corona, on nous demande beaucoup plus de travail. Faut surveiller les clients qu'ils aient bien leur masque, il faut désinfecter chaque table derrière, les bornes. Enfin, c'est tout un protocole en plus. Et on va dire que aussi, la direction n'aide pas à ce que les conditions soient pas respectables, en fait.
C'est en termes de charge de travail, il y a plus de travail lié à ce protocole sanitaire. Est-ce qu'il y a aussi une forme de pression sur les salariés ?
Il y a une forme de pression constante, forcément. On travaille on a un travail qui doit être rapide, efficace. On n'a pas forcément le temps de se poser. On n'est pas très nombreux. C'est des petits contrats. On subit la précarité, en fait. Surtout chez McDo. C'est difficile de réussir à augmenter son contrat parce que forcément, on a besoin d'augmenter nos contrats. On n'est déjà pas beaucoup payé à l'heure. Il n'y a pas forcément de reconnaissance, on n'a pas le droit au 13e mois, on subit une pression constante. Et on est tous concernés, hein. Ça va des managers, par les chefs d'équipe, par les équipiers, jusqu'aux agents d'entretien. C'est vraiment tout le monde. En fait, c'est une pression constante qui redescend. Et forcément, celui du dessous, il prend plus cher que celui du dessus.
Quelles sont les revendications que vous portez ?
Donc, 17 revendications, dont le 13e mois, une augmentation de salaire de 3%, des heures de nuit majorées à partir de 21h, parce qu'on travaille dans une entreprise qui ouvre quand même jusqu'à minuit. On a aussi demandé la mise en place d'une prime trimestrielle. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, dans l'entreprise, encore actuellement d'ailleurs, c'est une prime mensuelle pour les équipiers, pour 5 équipiers seulement, sur toute l'entreprise. Donc c'est l'équipe de direction et l'équipe de gestion qui décide qui va avoir droit à cette prime. Une prime de 60€ brut par mois. Donc on avait demandé déjà il y a un an et demi maintenant la mise en place d'une prime trimestrielle avec des critères objectifs quantifiables, que tout le monde puisse avoir quelque chose, une reconnaissance. Tout le monde fournit en fait le travail, plus ou moins. Après ça dépend des objectifs à atteindre. Alors, la prime trimestrielle nous avait été accordée fin 2019. Elle devait être mise en place en janvier 2020. Suite à ma demande d'ouverture de négociation en entreprise, on nous a dit « Ben non, on ne la met pas en place. Tu la mettras dans tes négociations. » Mais il faut savoir que cette prime-là, elle a été mise en place dans les 8 autres restaurants de la franchise en janvier 2020. Nous, on a été punis.
Ça représente quoi en termes de chiffres à McDonald's et combien sont payés les salariés?
Donc en moyenne, un temps partiel, il faut compter entre 8 à 900 euros de salaire. Pour le chiffre d'affaires 2019, on tourne 3,5 millions. Le bénéfice, on tourne à presque 600 000 euros pour le PDG sur un restaurant, le nôtre.
Et moi, en étant en temps plein, je touche tous les mois en net 1 225 euros.
Comment vous engagez le rapport de force? De quels moyens vous disposez pour répondre et revendiquer face à la hiérarchie?
Le seul moyen pour nous, c'est la grève. C'est la grève, forcément, parce que on n'a pas vraiment de moyens particuliers. On essaye d'établir, voilà, justement, un dialogue. On essaye de leur faire entendre raison. Enfin, je veux dire, je suis dans une entreprise de moins de 50 salariés qui, pour la plupart, sont à temps partiel, ne touchent pratiquement rien en salaire, ont du mal à s'en sortir. Et en fait, là, j'en suis, depuis janvier 2020, à 32 demandes d'aide sociale pour mes collègues. On est à 32 dossiers. C'est quand même impressionnant, c'est aberrant. Quand on leur dit ça, en fait, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce que eux, ils encaissent, ils gardent des petits contrats qui sont mal payés. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils comptent sur ces aides de l'État pour justement venir compenser ce que eux ne donnent pas, en fait.
Demande d'aide sociale, c'est quoi précisément?
Alors, on a des demandes différentes. On a des demandes, ça peut être un dossier pour une demande pour une grosse facture. Parce que souvent, ce qui arrive en fin d'année, c'est qu'on a les factures d'électricité, les factures d'eau. Ça peut être des demandes pour des cantines, pour les enfants, pour faire garder ses enfants aussi. De tout, de rien, des réparations de voitures, des collègues qui sont embêtés, qui ne peuvent plus venir travailler. Alors nous, on se dépatouille, nous, on les aide, mais au niveau du haut, tout ça, c'est... Si on leur dit ça, ça leur fait aucun effet, en fait, il n'y a pas de réaction. Il y a des aides pour ça.
Comment est suivie la grève au sein même de votre McDonald's à Fouquier-les-Béthunes?
Il faut savoir que le premier samedi où on a lancé la grève, du coup, nous étions au matin 23 employés à être dehors. Donc nous avons commencé la grève dès 6h du matin. Ça a commencé avec les agents de l'entretien, sachant que moi, juste derrière, j'étais d'open, donc à 8h30. Ma collègue Erika, ici présente, était en open salade, donc à 10h. En fait, ils n'ont eu aucun employé jusqu'à midi, si je dis pas de bêtises. Et il y a d'autres collègues qui sont venus, qui ne travaillaient pas et qui sont venus quand même se montrer en disant qu'ils étaient d'accord. Après, il y a toujours le souci de certaines personnes qui sont d'accord avec l'idée, qui veulent faire grève, mais qui financièrement parlant ne peuvent pas se permettre, en fait. Donc, qui continuent à travailler, mais qui ne se cachent pas, qui sont d'accord avec nous, en fait. Après, on a aussi, c'est une entreprise où ça tourne beaucoup avec les étudiants, donc les études coûtent cher maintenant, donc les étudiants, pareil, peuvent pas forcément se permettre de faire grève. Et on est aussi en pleine période où on a les saisonniers. Donc eux, c'est encore, les étudiants, on les a longueur d'année, donc eux encore peuvent se permettre, pour certains, ils peuvent gérer leur porte-monnaie, on va dire. Mais les saisonniers qui viennent simplement pour 2 mois travailler peuvent pas se permettre de suivre. Et pourtant, eux-mêmes en 2 mois voient très bien comment les choses sont, en fait.
Est-ce qu'il y a des clients qui viennent? Est-ce que vous essayez de discuter? Est-ce que vous tractez? Comment ils réagissent, les clients, les clientes du fast-food?
Alors, ce qui se passe, ça s'est passé à la première grève et ça s'est réitéré hier. Donc nous, quand on se met en grève, la direction décide de fermer le resto. Ils ferment la salle du restaurant et ils ne laissent que le drive. Donc, on n'embête personne, on tracte, on distribue des tracts aux clients, on leur explique la démarche, on s'excuse bien sûr auprès d'eux parce qu'ils ne sont pas visés. On essaye de leur faire comprendre ce qui se passe et pourquoi on fait ça. Et la plupart des clients réagissent très bien. Donc, ils nous disent de continuer à nous battre, qu'on a bien raison et que c'est un peu, entre guillemets, honteux, mais qu'il faut continuer le combat. Et on a même des clients qui font demi-tour et qui vont manger ailleurs.
Donc là, on a bien compris que c'est difficile de faire une grève continue. Donc pour l'instant, c'est une grève perlée. Comment s'envisage la suite? Comment se passent les négociations aussi actuellement?
Les négociations, pour l'instant, il n'y en a plus vraiment. Parce que là, suite au PV envoyé, le PV de désaccord envoyé par le PDG, Ça sous-entend que pour lui, les négociations sont terminées, donc qu'il n'y a pas d'accord. Donc là, hier, après le mouvement, suite à ça, je l'ai recontacté, donc je lui ai renvoyé un mail. Et là, j'attends un retour dans les jours à venir. Et ensuite, avec l'équipe, bien sûr, on va se réunir. On verra déjà s'il y a un retour, s'il n'y en a pas. Est-ce qu'on refait un mouvement ou pas? Est-ce qu'il accepte de nous recevoir et de réouvrir les négos? Pour l'instant, on est en suspens. On attend une réponse.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que eux avaient proposé?
Alors, ce que eux, ils avaient proposé, c'est de mettre en place l'avenant.
Un avenant qui a été négocié et accepté au niveau national, en fait, au niveau de la convention collective de la restauration rapide, qui sera mis en place dès la parution dans le journal officiel. Donc lui, il intègre ça au négo en nous disant « je le mets en place tout de suite », sachant que dans quelques mois, on va l'avoir, quoi qu'il arrive. Ensuite, on nous propose une augmentation de 7 centimes de l'heure. On était là pour vous dire, moi, à mon niveau, j'étais à 10,25 €. Avec les négociations au niveau national, on passe à 10,31 €. Donc lui, il nous propose, pour passer au-dessus de cette grille-là, au-dessus de la grille de la convention, 10,38 €. On nous propose une prime trimestrielle d'un montant total de 90 € brut pour un temps plein. Moi, temps partiel, combien j'aurai, surtout que ça va être des critères décidés par la direction. Donc ça va être à la tête du client, comme on dit.
Sachant que pour cette prime trimestrielle, on a su par d'autres collègues des restaurants, parce qu'on s'est renseigné quand on a su qu'eux l'avaient déjà depuis janvier 2020, sachant que le maximum qu'une collègue a eu en temps plein et pas à temps partiel, elle a été à 48 €, donc brut. Sachant qu'aucun employé ne connaît les critères qui sont définis pour cette prime, donc on y va à l'aveuglette, c'est juste à la fin des 3 mois, on nous donne de l'argent sans nous dire ce qui est amélioré ou pas. Donc c'est encore une fois comme à peu près la prime équipier pour les 5 au mois actuel, en fait, c'est à la tête. C'est pas en fonction de notre travail, c'est en fonction de... c'est à la tête, quoi.
Tu parles des autres restaurants McDonald's de la franchise. Donc si j'ai bien compris, il y a 9 restaurants pour cette franchise. Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'organise avec justement ces autres... ces autres restaurants, est-ce qu'il y a des tentatives? Est-ce que c'est soutenu par les autres salariés? Comment ça se passe?
Pour l'instant, il n'y a rien qui s'organise, mais forcément, les gens voient, les gens entendent et cherchent à se renseigner, à savoir le pourquoi du comment. Et puis, ils s'intéressent un petit peu à tout ce qui se passe, forcément. Là, ils essayent d'en savoir un peu plus. Donc forcément, moi, je ne ferme pas la porte. Tous ceux qui veulent venir au renseignement et savoir un petit peu... ben, pourquoi nous on fait ci, et pourquoi on fait ça, pourquoi on part en grève, pourquoi on réclame des choses. On a quelques retours, mais...
D'après vous, pourquoi c'est arrivé maintenant? Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, au contexte économique, au post-confinement? Qu'est-ce qui a fait que ça arrive maintenant et pas l'année dernière, par exemple, alors que les conditions de travail étaient, j'imagine, similaires?
Pourquoi maintenant? Parce que j'ai été élue représentante du personnel en 2016. J'ai continué mon mandat et en cours de mandat, en fait, suite à des problèmes rencontrés dans l'entreprise récurrents, je me suis syndiquée. Et là, je me suis formée. Et là, j'ai appris des choses. Et donc, en 2019, on a eu dans notre restaurant des élections pour la CSE, la mise en place CSE. Donc, j'ai été élue. Et ensuite, j'ai été élue sous étiquette syndicale, bien sûr, de la CGT. Suite à ça, j'ai été nommée déléguée syndicale. Donc, étant déléguée syndicale dans une entreprise, on a le droit, ça nous donne droit à des négociations annuelles obligatoires. D'où l'ouverture des négociations en début d'année. Si les gens ne se réveillent pas et à un moment donné, ils ne disent pas ben, « stop là, stop ». Enfin, je travaille, je mérite un salaire, je mérite avoir... Moi aussi, je mérite un temps plein, je vais y arriver. Mais si personne ne dit rien, si tout le monde se laisse faire... on va pas avancer, quoi.
Surtout qu'il faudrait pas que les PDG, et je parle pas que de notre entreprise à nous, parce que c'est un peu pareil en France, partout en France, faut pas qu'ils oublient que sans nous, leur entreprise ne fonctionne pas. Donc sans nous, ils se payent pas leurs vacances où ils sont actuellement. Ça, faut pas qu'ils l'oublient. Donc c'est légitime ce qu'on demande. Après, on lui demande pas non plus 50% de ses revenus. Hein. On a calculé, il gagne 600 000 € à l'année dans notre restaurant. Donc on avait calculé environ, je ne sais plus les chiffres exacts, mais 53 000 € par mois, sachant que pour le 13e mois, c'est même pas, il ne nous donne même pas un mois de ses revenus. sachant qu'il a quand même 9 restaurants à côté et qu'il essaye surtout d'en acquérir un 10e. Donc c'est qu'il va se faire encore plus d'argent, qu'il commence déjà à féliciter ses employés. Et après, il faut aussi qu'il se dise, c'est que bah, il va nous donner plus, on va travailler plus. C'est logique aussi, notre travail est fait, mais on en arrive quand même à un stade où bah, on commence à traîner des pieds. S'il commence à nous payer à notre juste valeur, bah, son entreprise, elle fera que florifier en fait. C'est pas de l'argent qu'il va perdre, il va le récupérer par la suite.
Erika et Anthony sont salariés au McDonald's de Fouquières-lès-Béthune, Erika étant aussi déléguée syndicale militante CGT. Elle et ils ont évoqué avec nous les journées de grève dans leur restaurant pour faire entendre leurs revendications, telles l'obtention de matériel de sécurité, les primes, l'augmentation des salaires ou un 13e mois.
Oui, dans le monde de l'entreprise, tout l'argent qui va aux dirigeants d'entreprise et aux actionnaires ne va pas aux salariés, et tout cet argent, il est obtenu sur le dos du labeur des salariés, des travailleuses et des travailleurs. On en a bien eu l'illustration dans ce reportage à Béthune, au McDo de Béthune, un reportage de Luc. Deuxième reportage maintenant dans ce micro-rebelle hebdo, ou plutôt l'extrait d'un reportage, puisque notre émission, on est quand même en fin d'émission. Nous avons participé à une conférence de presse organisée par le Comité pour l'Unité pour l'interdiction des licenciements. En vue de la crise économique et sociale, de l'augmentation du chômage, la politique de subvention d'État des entreprises privées sans contrepartie, plusieurs organisations politiques se constituent en CUPIL, Comité pour l'Unité pour l'interdiction des licenciements. Microbel a rencontré plusieurs de ses membres lors d'une conférence de presse fin août. C'est un reportage de Luc, ou plutôt l'extrait d'un reportage de Luc. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage d'ores et déjà maintenant sur notre site micro-rebelle.fr. Extrait.
Interdire les licenciements serait une utopie. Alors, les capitalistes, quand on leur a dit les enfants de moins de 12 ans pourront plus travailler, ils ont dit vous êtes fous, vous voulez notre faillite. Quand on a dit aux capitalistes, vous allez payer deux semaines de congé aux salariés en 36, ils ont dit pareil, vous n'êtes pas bien, on va tous faire faillite. En 45, on leur a dit vous allez doubler les salaires et financer la sécurité sociale. Ils ont dit exactement pareil, vous êtes cinglés, on va faire faillite tous, on va tous couler. On constate que les capitalistes s'en sortent toujours, du moment qu'ils restent propriétaires de la production, ils s'en sortent. Donc ici, on va nous dire que c'est utopique d'interdire les licenciements, mais moi je suis sûr que si on arrive à une loi qui interdit le licenciement, je suis sûr que les capitalistes vont s'adapter, vont toujours s'en sortir.
Une note du 7 mai, l'INSEE a établi que 453 000 emplois, dont 300 000 intérimaires, ont été détruits au premier trimestre 2020. De plus, un employé sur deux en CDD a perdu son emploi ce même premier trimestre. Enfin, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi a grimpé de 24,5%, cette fois au second trimestre. Dans ces conditions, plusieurs organisations politiques arrachoises reprennent ce mot d'ordre. Les licenciements, notamment économiques et boursiers, doivent être interdits, d'autant plus dans les entreprises qui reçoivent des fonds publics ou des prêts garantis par l'État. Ces organisations, la France Insoumise, le PCF 62, le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, le Parti de Gauche et la section 59-62 du Parti des Travailleurs Tunisiens, se sont constituées en comité pour l'unité pour l'interdiction des licenciements. Nous avons donc rencontré Natacha Gallego, René Chevalier, Christian Guffroy, Frédéric Beugnier, Ali Guettari et Zied Ben Abdeljelil lors d'une conférence de presse donnée le 25 août à Arras. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, là, à l'heure actuelle? Est-ce que les licenciements ont été comptabilisés? Quelle est la hausse du chômage? Quels sont les chiffres, en fait? Essayez de rappeler le diagnostic.
Nous sommes encore en congé, hein. Donc c'est très difficile, mais là, à la rentrée, dans les 15 jours qui vont suivre, on va savoir exactement ce qui se passe au plan local. Au niveau national, bon, c'est bien, il y a Il prévoit 453 000 emplois en moins, hein, donc dans toutes les grandes entreprises, quoi. Donc ça va être très compliqué. Donc la rentrée va être très chaude, sachant qu'il y a un appel à manifestation le 17 septembre. Il y a déjà un mécontentement qui est travaillé, mais bon, pour l'instant, les gens sont dans la tête, non dans la tête encore, ils sont encore en vacances, mais après ça va se concrétiser par des actions.
24-25% au second trimestre des inscrits à Pôle emploi, qui a augmenté aussi rien qu'au second trimestre, sans parler du premier trimestre où il y a eu les premières personnes qui ont été licenciées. Il y a les 800 000 jeunes qui arrivent à la recherche d'un emploi aussi cet été, cet automne et pour le reste de l'année. Donc, enfin, le constat, il est assez...
Les chiffres officiels, hein, officiels que... J'entends moi la télé, que je lis à travers les journaux, il y a 4 200 000 chômeurs effectifs dans le pays. 4 300 000 chômeurs. Bon, il faut savoir qu'avant le confinement, on était descendu à 3 200 000, donc il y a 1 000 000 de chômeurs en plus. En plus, depuis le début de l'épidémie, enfin depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, mais il va s'ajouter le mois prochain, c'est-à-dire dans une semaine, comme elle vient de dire ma camarade là, les 800 ou 700 000 enfants qui vont rentrer, les jeunes qui vont rentrer sur le marché de travail. Il y a aussi une bonne part de travailleurs intérimaires qui ne seront pas reconduits. Leur mission s'est achevée soit pendant le confinement, soit après le confinement, mais ils ne seront pas reconduits. Il y a beaucoup de travailleurs à mi-temps qui ne seront pas reconduits. Malgré tout cela, il y a des appels de partout dans les entreprises publiques ou privées pour que l'on embauche parce qu'on a besoin de monde, pour faire redémarrer l'économie, mais c'est, là aussi c'est un peu pieux, hein. Les oreilles pour certains, ils sont sourdes. Hein.
Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a lu dans la presse, à l'INEA, le magasin de Noyelle Godot, les salariés ont manifesté, ils sont une cinquantaine, le magasin va être fermé, ils sont licenciés. Pickwick à Arras ferme, bon, les salariés sont licenciés, j'ai discuté avec eux, ils disent que bah, il n'y a pas de reclassement, ou alors il faudrait qu'ils aillent dans un magasin à 300 km, ils ne font pas ça, donc ils vont disparaître. Tout ça, ça va se décliner à la rentrée petit à petit, nous on écoute ce qui est annoncé, hein. Renault 4500, Maubeuge, bon, ils ont reculé parce qu'il y a eu une grosse manif, mais d'ici un an ils vont parler de refermer Maubeuge, quoi. Airbus, Air France, Nafnaf, Alinéa, Engie, Daher, De Richbourg, Ford, General Electric, Boiron, Sanofi, les laboratoires pharmaceutiques qui licencient, franchement, ils en profitent tous, quoi. La halle, c'est ça. Et plus, moi je suis conseiller du salarié, des salariés commencent à m'appeler, là c'est la rentrée, et c'est des licenciements individuels, quoi. Les patrons, ils ont besoin de personnes en trop, ils trouvent la faute, licenciés, allez hop, ils sont en train d'apurer les effectifs comme ça, quoi.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je résume, qu'on était en train de financer les restructurations. On peut avoir du mal à comprendre la logique, parce qu'en général, c'est quand même les emplois et le travail qui produisent de la valeur. Alors, quel est l'intérêt, là, des détenteurs de capitaux privés, des entrepreneurs, en fait ?
Il y a une autre manière, maintenant, ils ont trouvé une autre manière de pouvoir acheter sans pouvoir embaucher, sans pouvoir créer de l'emploi. C'est ce qu'on appelle la digitalisation. C'est Mullier, on revient sur Mullier, par exemple, préconise dans le temps ce qui s'est créé pendant le Covid-19, l'achat par Internet. Et ils vont se servir de ça. Là, ils sont en train de restructurer et de réfléchir à ce système de digitalisation pour pouvoir faire en sorte de maintenir les magasins avec un minimum de personnel tout en vendant un maximum. C'est ce qu'on appelle, ils se servent de ça par le biais de l'Internet. Déjà, ça, c'est nouveau. Ensuite, effectivement, l'argent, ils savent que maintenant, ils sont aidés par l'État et par les banques. Les banques, ils donnent et l'État le verse par-dessus. On le voit bien que c'est un micmac financier qui est bien capitalisé et que ça va rendre service aux multinationales. Ça, c'est clair, net et précis. Il y aura des heures supplémentaires. Il y a des gens qui feront des heures supplémentaires. Avec un minimum de personnel, il y a des heures supplémentaires. En 2018, La CGT, il y a une centrale de la CGT qui a fait des calculs, il y avait à peu près, en 2018, le nombre d'heures supplémentaires était l'équivalent de 542 000 emplois en général.
Un reportage à retrouver dans son intégralité sur le site de notre web radio microrebelle.fr. Ce micro-rebelle hebdo se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Un petit rappel, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous soumettre des idées de reportage, d'échange, d'entretien. Notre téléphone, je vous le rappelle, 03 74 71 24 87. N'hésitez surtout pas à laisser un message. Et le courrier électronique contact@micro-rebelle.fr. Belle semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.
Son fora d'escala.